Marceau, le matin.
C'est 12 minutes pile poil, les amis. Merci de débuter votre journée avec nous autres. C'est un plaisir de le faire. On est avec vous jusqu'à 10h. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, lui, c'est Jeff Fortin. Max Larouche qui est là à la circulation, qui surveille tout ce qui se passe avec ses radars, soit les radars de la circulation, les radars de news ou encore les radars du sport. Les mouches à fruits aussi, Max surveille ça dans le studio. Depuis deux jours, on est aux prises avec des mouches à fruits. On sait pas d'où ça vient.
Mais on sait de qui ça vient.
Ouais. On n'aimera pas de nom.
Audrey Pinchot, on a des choses à te dire.
Exactement. Quand tu arrives à la station, viens dans le studio, on va te jaser.
418-971-1021, 418-971-1021 par messagerie texte. C'est possible de le faire. Textez-nous si vous avez des choses à nous dire ou encore s'il se passe quoi que ce soit sur la route.
L'heure de pointe qui s'installe bien tranquillement à Québec, là, un peu avant Beauvoir jusqu'à Laurentienne, c'est au rouge, Robert Bourassa Sud. Le classique vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est jamais. Arc 4 Sud, dans les dernières minutes, là, ça s'est enrougi pas mal, comme on dit, un peu avant route Sainte-Geneviève. Et Chauveau-Ouest en direction nord, jusqu'à Chauveau-Ouest, devrais-je dire. Secteur des ponts, assez compliqué aussi ce matin pour l'accès. On est pas mal dans la normale.
Merci. C'était la mise à jour économique hier du ministre Éric Girard. Il y en a qui sont déçus, il y en a d'autres qui sont contents. Nous, on a des analystes politiques seniors pour parler de ces dossiers-là. Son nom, c'est Gabriel Giguère, qui est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Salut, Gabriel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est la première fois qu'on se rencontre en personne?
Je pense que oui, puis c'est un plaisir.
Ben oui, mais c'est le fun. Oui. Les gens qui se déplacent pour venir avec nous autres en studio, c'est toujours très apprécié. À première vue, tu l'as trouvé comment, cette mise à jour économique-là pour les Québécois?
Bon, déjà, c'était pas excitant comme mise à jour économique. Je pense qu'on peut le dire. En mars dernier, lors du dépôt du budget, on avait une absence de chemin clair pour le retour à l'équilibre budgétaire. C'était un des éléments qui me semblaient importants à voir, là, de se dire, ben, on a eu une décote en avril, puis dans la décote du S&P au Québec, ben, on s'est fait expliquer que le retour à l'équilibre budgétaire devait être plus crédible, parce qu'on se rappellera qu'il y avait 3,2 milliards de dollars où il y avait de la pensée magique autour de ça. Là. Puis ce qu'on apprend avec la mise à jour économique budgétaire, c'est qu'on renchérit dans la pensée magique. Puis ça, je trouve ça dommage, parce qu'on a encore un 2,5 milliards où on nous dit, inquiétez-vous pas tout le monde, là, l'équilibre budgétaire est là. Ouais. On ne sait pas comment.
Mais elle reviendrait en 2029, c'est ce qu'on nous a expliqué.
C'est exactement ça. Mais on se dit, on va avoir plus d'argent d'Ottawa, on va avoir plus de croissance économique. Il faut être clair, dans la mise à jour économique, quand on regarde les revenus, ça a augmenté d'environ 2,4 milliards parce qu'il y a une meilleure croissance économique qu'anticipée malgré les tarifs douaniers. Par contre, malgré le 2,4 milliards d'augmentation de revenus, on a juste baissé le déficit d'1,2. Fait que quand on a de l'argent dans les mains du ministre, ça file entre les doigts. On n'est pas capable d'avoir cette symétrie-là.
On a encore trop de dépenses?
On a encore trop de dépenses. On n'est pas capable de baisser ça. Puis dans les dépenses, oui, il y a les dépenses de portefeuille. Fait qu'on peut penser au programme de dire, ben, on bonifie un tel programme, que ce soit pour la famille, que ce soit pour l'économie. Mais là, ce qu'on voit, là, puis ça m'inquiète, c'est qu'on a vu une augmentation de 500 millions de dollars des paiements de l'intérêt sur la dette. Ça, là, ça sert à... Ben, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est parce qu'on a une dette qui a été accumulée au Québec, puis il faut rembourser les intérêts, mais concrètement, c'est pas de l'argent qu'on peut mettre en santé, qu'on peut mettre ailleurs. C'est un petit peu alarmant là, d'avoir franchi le cap du 10 milliards pour la première fois au Québec. Ouais.
Comment on a réussi à prendre 3,7 milliards de réduction du taux de cotisation au RRQ et au RQAP pour les employés, donc 1,8 milliard, puis pour les employeurs, c'est 1,9 milliard. Comment on a réussi à faire ça, à faire passer ça de façon positive, comme si c'était le gouvernement qui nous redonnait cet argent-là, alors que c'est notre caisse à nous? C'est un peu comme la caisse d'assurance chômage.
C'est une bonne question. Ça me fait sourire, ça, de voir que le gouvernement se donne des petites tapes dans le dos pour nous expliquer. Là. Alors, on va vous donner un petit peu là, de loose. Vous allez pouvoir respirer. Le gouvernement n'a aucun rapport.
Non.
Il n'y a aucun rapport. Puis là, c'est là qu'on voit que c'est drôle, parce que quand le gouvernement ne touche pas à quelque chose, c'est là que ça va bien. Hein? Je pense pas mal la preuve. Là.
Je l'avais pas vu de même, mais là-dessus, tu as entièrement raison. Je me souviens, c'était-tu le gouvernement fédéral à l'époque? Je pense que c'était Harper qui avait pigé dans la caisse d'assurance chômage. dommage pour essayer d'éponger un peu un déficit qu'il pouvait avoir. Mais là, de voir que le gouvernement se tape des mains en disant « Hey, on redonne de l'argent aux Québécois », ben c'est parce que c'est notre caisse à nous.
C'est fort de café, là. Puis faut comprendre que c'est parce que les régimes des rentes, là, qu'on va baisser la cotisation, c'est parce que c'est capitalisé, parce que la caisse investit, puis il y a des relativement bons rendements, ce qui fait en sorte que la pression de cotisation est moindre. La RQAP, là, le régime d'assurance parentale québécois, ça aussi, il y a une forme de capitalisation, mais c'est aussi que on a moins d'enfants, donc il y a peut-être moins de besoins. Fait que ça n'a aucun rapport à la gestion financière du gouvernement, il faut le comprendre, c'est 80 $ en moyenne pour 2026 par employé. Ça, c'est 1,54 $. C'est à peu près, si je me trompe pas, le prix du sac de chips en spécial chez Super C. Là. Fait que ça fera pas la différence là, pour les Québécois et les Québécoises. Je pense qu'on aurait pu faire ça, très certainement, mais en profiter pour, par exemple, baisser la taxe sur l'essence. On le sait qu'on a un surplus du fonds vert. On aurait pu là, faire une différence de quelques centaines de dollars. Je le sais que dans le Grand Québec, quand on compare le prix de l'essence pour les résidents du Grand Québec par rapport à la moyenne nationale, qui inclut le Québec également, on est à peu près à 14-15 cents de différence. Là. On paye 14-15 cents de trop ici. Fait que si on pouvait suspendre la taxe sur l'essence, ben rapidement, là, ça, on en aurait pas mal plus dans nos poches que le 1,54.
C'est l'impression que j'ai rien pour te prouver mes dires, mais ça, on va le garder peut-être 3 mois avant les élections, cette petite portion-là où on va décider d'abolir la taxe, la bourse du carbone. Il y a beaucoup d'analystes politiques qui disaient tant qu'à le faire, on est aussi bien de le faire avec cette mise à jour économique-là. Là, ce qu'on a entendu hier, c'est pas ça pantoute. Mais je pense, Jeff, qu'on va nous remettre ça quelques semaines
petit cadeau d'élection
avant les élections. Au lieu de nous donner un chèque là, de 500 $, là, ça va être... on va vous donner un break là, sur le litre d'essence, puis ça va descendre de 15 cents du litre.
Je serais pas nécessairement surpris également de voir ça, mais au final, tu sais, je pense qu'il faut prendre un pas de recul, puis pas juste regarder le Québec avec ce type de système-là. Quand on regarde aux États-Unis, là, ça commence à être compliqué aussi. Là. On est en concurrence avec le nord-est des États-Unis. Si on n'a pas ce type de système-là, on se donne un désavantage comparatif. T'sais. Nos entreprises, ça va coûter plus cher à produire. Donc, je pourrais comprendre ce type de réflexion-là. Nous autres, qu'est-ce qu'on a proposé? C'est peut-être un petit peu moins cette abolition-là. Quoi qu'on, fondamentalement, je ne serais pas contre du tout, mais c'était vraiment de se dire, on a une taxe directe sur la facture d'essence qui est 19,2 cents. On peut-tu la suspendre? Parce que ça commence à coûter cher, 19,2 cents.
Puis on en parlait avec Éric Duhem, qui va être avec nous autres vers les alentours de 8 heures ce matin. Il y a de ça peut-être 2 semaines quand tu étais venu nous voir. On perd énormément d'argent en étant si peu compétitif pour ce qui est du litre d'essence parce que le mot d'ordre pour des entreprises québécoises qui font du camionnage puis qui sortent de la province ou qui s'en vont aux États-Unis, c'est avant de revenir au Québec,
tank.
Faites le plein à la dernière station service juste avant la frontière qui va arriver au Québec. Puis, on perd énormément de taxes qu'on aurait appliquées si les individus avaient mis de l'essence chez nous. Là. C'est quoi? Qu'est-ce qui rentre dans une tank de camion?
On dit toujours
800 litres?
Ouais, c'est ça. On dit, entre 400 et 800 litres,
je pense. Imagine-toi le montant.
Exactement.
On perd.
C'est énorme. C'est ça. Là. On n'est pas concurrentiel, fait qu'on s'en va tinker ailleurs, c'est évident. Nous, en tant que Québécois aussi, on paye pas mal trop cher. On avait la chance là, d'avoir vraiment un permettez-moi d'en dire un move, là, quelque chose de sérieux dans cette mise à jour économique-là. On a essayé de nous vendre là, la salade de la RRQ et de la RQAP, qui est une bonne chose, soit dit en passant. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui va se dire « Caroline, je vais moins cotiser, ça ne me tente pas ». Non, il y a une pression importante quand même, ce qu'on appelle là, sur les taxes sur la masse salariale pour les employés.
Exact.
Et je dois aussi dire que pour les employeurs, ça va leur permettre de respirer. Quand on passe au secteur forestier où on réduit d'autres types de masse salariale, puis c'est quand on prend le Québec puis on le compare aux autres provinces. Oui, on a l'impôt sur les sociétés qui est un petit peu moins élevé au Québec, mais on a d'autres choses comme les taxes sur la masse salariale. Sinon, on paye la RRQ, on paye l'assurance-emploi, on paye le régime d'assurance parentale. Les employeurs payent tout ça, puis il n'y en a plus.
C'est là que la fiscalité devient trop importante.
Exactement. La fiscalité sur la masse salariale au Québec est beaucoup trop importante et elle n'est pas concurrentielle avec les autres provinces. Fait que là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on le sait que c'est problématique. Le secteur forestier, par exemple, qui fait battre le cœur de plusieurs petites municipalités au Québec, on en a de besoin. Bon, on va réduire cette masse salariale-là pour justement assurer une meilleure rétention.
Est-ce que ça rajette un peu le mauvais commentaire de François Legault de dire 30 000 emplois, c'est pas grave, ils vont se replacer dans Hydro-Québec? Même s'il se replace à Hydro-Québec, ce que je pense pas, un village comme Latuc fermerait, par exemple.
Non, je pense que clairement, on est arrivé avec une approche qui est beaucoup plus sensée, à mon sens, là, que de dire qu'on va perdre la moitié des emplois. Là, c'est sûr, par contre, qu'il y a une grosse pression avec la protection du caribou, mais surtout, puis disons-le, les droits de douane américains là, sur notre secteur. Fait que ça permet de faire respirer un petit peu. Ça, je dois le donner quand même au gouvernement. Ouais. C'est une chose qui est bien. Maintenant, sur le plan du sérieux, j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas appris de la décote de cette année. Il va vraiment falloir que budget 2026, là, puis c'est incontournable. Ça prend clairement un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il ne faut plus avoir la ligne écart à résorber. Ou que tu t'en vas devant les Québécois, puis tu dis, moi, je ne sais pas comment je vais le chercher, mon 2,5 milliards, mais on va y arriver, faites-moi confiance. C'est comme si je m'en vais dans un chalet dans le bois, puis j'ai pas de GPS pour les 20 derniers kilomètres. Ça va être compliqué de me faire confiance. On espère que le gouvernement va... Ben, plutôt le ministre...
Oui, parce que quand on compte sur les revenus du fédéral, veut pas le fédéral a un déficit record aussi, fait que ces revenus-là... À un moment donné, ils vont s'en aller vers le paiement des intérêts de la dette canadienne.
C'est exactement ça. Puis je veux dire, on est tellement dans des déficits stratosphériques au fédéral qu'on peut pas se fier à eux autres pour avoir plus d'argent. Maintenant, on peut pas se fier non plus à la croissance économique parce que le ministre est pas capable de prendre l'argent de la croissance des revenus puis de réduire les dépenses, de réduire le déficit plutôt. Fait qu'on est comme devant une nécessité aussi de réformer l'État. Ça fait partie des quatre points et j'espère vraiment qu'on va être sérieux sur cette question-là. On a la ministre Duranceau qui est sortie il y a à peu près un mois pour nous expliquer qu'on doit réduire de 6 000 fonctionnaires l'État québécois. C'est un bon pas, c'est un solide pas dans la bonne direction maintenant. On espère que ça se concrétise et on va voir le plan, mais c'est un candidat crédible, c'est pas assez pour ouais. éliminer le 2,5 milliards.
Non, parce que je fais juste prendre la ministre Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor. Elle avait fermé Eval sur plusieurs subventions, elle les a rouvertes rapidement avec de la pression. Donc là, avec ce qui se passe avec les syndicats, le projet de loi 3, je ne sais pas jusqu'où on va aller dans le 6 000.
Ben là, c'est l'année électorale, là. Fait que ça prend du courage politique puis d'accepter que là, on peut pas juste parler de déficit puis de déficit, puis il faut commencer à parler de retour à l'équilibre budgétaire. Puis si on veut être pris au sérieux dans l'espace public, ben il faut avoir un chemin clair.
Est-ce que Éric-Jean a sabré dans cette mise à jour économique-là? Est-ce qu'il a fait des réductions de dépenses des ministères?
On n'a pas vraiment vu de diminution des ministères. Quand je regarde là, les dépenses de portefeuille, ça a augmenté par rapport au budget. Donc, on n'est pas dans une... Ça n'a pas augmenté massivement, mais il n'y a pas eu de grandes coupures. Ce qu'on constate, c'est le gros poste de dépenses qui a fait augmenter les dépenses du gouvernement, c'est vraiment l'intérêt sur la dette. C'est vraiment le fait que notre dette nous coûte plus cher collectivement, puis que cet argent-là, justement, on ne peut pas la mettre ailleurs comme dans le système de santé. Puis il faut juste qu'on se rappelle en tant que Québécois qu'on va avoir des défis dans les prochaines années. Parce qu'à la fois, il faut réduire le déficit, mais il faut aussi regarder la dynamique démographique du vieillissement de la population. Notre système de santé ne nous coûtera pas moins cher. Fait que ça va être de voir que peut-être qu'on n'a plus aussi les largesses d'un État-providence aussi large. Il va falloir le dire. Le ministre Gérard, en entrevue en août de cette année, l'a dit, il l'a reconnu en entrevue, il dit ben, c'est vrai que l'État québécois a pris de l'expansion. Son périmètre de champ d'action, là, il a le nez partout maintenant, l'État québécois, puis peut-être qu'il va falloir le réduire. On a hâte de voir maintenant comment ça se concrétise.
Avec le taux directeur de la Banque du Canada qui a descendu, est-ce que les frais d'intérêt du service de la dette, ça va être réduit un peu?
Ben c'est ça qui est particulier, c'est que on va voir. J'espère que oui. La réponse est oui, normalement. Tu sais, je veux dire, c'est le coût d'emprunt. Fait que ça devrait être le cas. Maintenant, ce qu'on voit dans la mise à jour, c'est une augmentation, mais sur les prochaines années, c'est une diminution. OK, donc, ça serait juste 2026-2027. Le problème, c'est que les projections du gouvernement sont excellentes pour se tromper puis toujours avoir une plus grande croissance que ce qui est prévu dans 2-3 ans. Okay. Maintenant, on va voir, mais c'est sûr que si on se fie juste aujourd'hui, à l'instant T, il y aurait une pression à la baisse là, sur les coûts d'intérêt.
Mais est-ce qu'ils ont été trop positifs? Parce que ce qu'on dit, c'est le retour à l'équilibre budgétaire, ça va être 2029-2030. Puis là, à ce moment-là, si ça continue comme ça, on serait censé boucler l'année avec un léger surplus de 285 millions de dollars. C'est-tu trop positif selon l'Institut économique de Montréal?
Ben, en fait, c'est que le 285... Ce que tu parles de 285 millions, c'est avant le versement au Fonds des générations. Fait qu'une fois le versement au Fonds des générations, on est en déficit de 2,5 milliards. Puis c'est ça le problème, c'est que les corps à résorber, ils n'ont aucune idée comment ils vont faire. Puis je ne sais pas comment le gouvernement fait pour nous mettre, parce qu'en fait, ils ont 3-4 bullet points en dessous pour nous dire plus d'argent du fédéral, plus de croissance économique ou moins de dépenses de l'État, mais ils ne savent pas comment faire.
Si tu avais une note à donner à la mise à jour d'Éric Girard d'hier, ce serait quoi? Bon, sur 10, mettons.
On va être gentil, là. On va y aller avec un... On va aller avec un 6, là. Je vais essayer de faire preuve de bonne
note
foi.
Note de passage?
Ben, note de passage, là. C'est parce que c'est à brûle pour point.
Pour un gars de droite économique, c'est dur.
Bon, on va y aller avec 3, là. On va y aller avec 3 de bord. J'ai compris, les gars, là. J'adore.
Gabriel Giga, je te souhaite de passer une super belle journée. J'apprécie ta présence en studio avec nous autres. On peut t'entendre une fois, de temps en temps, dans le show du matin, mais très souvent dans l'émission de Jeff.
Oui, exactement. On va voir Gabriel demain, midi et demi, parce qu'il va participer là, à la commission parlementaire du projet de loi 3. Qui fait très parler avec les sorties de Magali Picard hier.
Merci beaucoup.
Un plaisir d'être avec vous.
Ben, pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'Institut économique de Montréal, on va tout simplement sur votre site web.
exactement au iedm.org, puis ça va nous faire plaisir. Là. Écrivez-moi n'importe quand, je vais vous répondre.
Merci beaucoup. 7h26, Max.
Quelques petits problèmes sur les routes. On est en pleine heure de pointe. L'accès au pont direction nord, c'est problématique, évidemment, dans les deux cas, pour les deux ponts. La 40S, petit ralentissement dans la courbe de Saint-Augustin de Desmaures. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose dans le secteur, mais il y a du rouge. 40S, c'est un peu plus loin, entre Duplessis et Henri IV au ralenti aussi. Sur Henri IV Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, c'est au ralenti. Capitale-Ouest, avant Beau-Royal, jusqu'à Laurentienne, au rouge. Et quand tu roules vers Shannon, tu vas sentir un bon ralentissement dans le coin de la base militaire aussi.
Boulevard 102.1. Marceau,